On va dire, voici ma Bible. Vous savez qu'il m'est arrivé des fois de piquer la Bible de mon épouse, mais ce matin, j'ai piqué une autre Bible. C'était à la femme de Pasteur Joël, parce qu'on a trois pareils un matin, hein? Donc, ça doit être la bonne, hein? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que cette Bible est vraiment, vraiment inspirée de Dieu? Amen. Donc, on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire en l'image de Jésus. Amen. Vous le croyez? Bon. Alors, ce matin, nous allons terminer la série qu'on a commencée il y a déjà 4 semaines ou peut-être plus. La semaine passée, je n'étais pas ici. D'avoir prié pour moi, et puis moi j'étais invité par Pasteur Pierre Cyr à Montréal d'aller faire une réunion pour lui. J'avais dit il y a déjà plus qu'un an, parce qu'il est venu à 2 reprises chez nous, et il a dit, bon, je vais aller chez vous, mais sur une condition que quand j'aurai besoin de toi, tu viens chez nous. Et donc il m'a appelé, et il avait vraiment besoin de moi. Et donc, je suis allé, on a eu vraiment une bonne réunion à Montréal. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans les églises au Québec. Amen. C'était bon de voir, ils ont vraiment une belle église là-bas et du bon monde, c'était merveilleux. Mais je sais que vous avez eu un bon temps aussi avec Pasteur Claude ici, et le Seigneur est bon. Mais ce matin, on va continuer la série « Comment mettre votre vie en ordre ». Et on a commencé il y a déjà presque 5 semaines, je crois, avec Genèse chapitre 1, verset 1. Et on va le lire ensemble ce matin, juste pour se mettre encore dans le flot de ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Encore, soulignez les mots informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et puis, quand on a commencé cette série, qu'est-ce qu'on a vu et qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'au commencement, quand Dieu a créé la terre et les cieux, on voit ici en verset 1 que la terre et les cieux étaient informes et vides. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en souvient des mots hébreux pour cela? C'était quoi? Tohu bohu, hein? Et on a dit, si vous voulez vraiment savoir c'est quoi tohu bohu, juste regardez la chambre d'un adolescent et vous allez voir, c'est un désordre, c'est du chaos, c'est vraiment pas en bon état. Et c'est ça un peu qu'est-ce qu'on voit ici. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, c'était informe et vide, mais ce mot veut dire, littéralement, il y avait comme un état de chaos. Il y a des personnes encore, c'est des questions théologiques, on n'ose pas même essayer de répondre ce matin, mais il y a des personnes qui croient que peut-être il y avait quelque chose qui s'est passé entre verset 1 et verset 2, quand Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'était au moment quand Lucifer a été jeté sur la terre que il y avait cet état de chaos? Moi, je ne sais pas. On peut avoir des opinions là-dessus. Pour moi, c'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qui est important, c'est de voir que ici, on a un état de tohu bohu. Il y avait la terre, les cieux qui étaient informes, vides. Il n'y avait pas de fruits. Il n'y avait pas de plantes qui poussaient, qui portaient du fruit. Le jardin d'Éden n'est pas là. C'est pas quelque chose qui est vraiment une atmosphère vivable, mais c'est dans un temps de tohu bohu. Mais qu'est-ce que on voit aussi? C'est que l'Esprit de Dieu était quand même présent. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et savez-vous que c'est un peu comme dans la vie chrétienne des fois. On peut avoir une vie qui est en désordre. On peut avoir une vie qui ne porte pas du fruit. On peut avoir une vie qui est même des fois dans un état de chaos. pas toute la vie, des fois, il y a certains domaines où ça va bien, la famille va bien, mais les finances sont pas en bon état. Ou les finances sont en bon état, mais dans la vie conjugale, il y a du chaos, etc. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent ce matin? Ou est-ce que vous avez vu, pas chez vous, mais chez les autres, des fois, des manifestations du chaos? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'Esprit de Dieu était présent, se mouvait au-dessus de la terre, mais l'Esprit de Dieu ne faisait pas son œuvre avant que Dieu a fait quoi? Avant qu'il a parlé. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ça prend l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu qui travaillent ensemble pour amener, on pourrait dire, le fruit, pour mettre de l'ordre, pour transformer le tohu-bohu en jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on veut dans notre vie chrétienne? C'est ça, on veut que le Saint-Esprit puisse agir. Et si l'Esprit Saint va agir, il faut que la parole de Dieu soit déclarée. Amen? Parce que quand Dieu a dit que la lumière soit, boum, la lumière fut. L'Esprit de Dieu qui était présent a agi. Quand il a parlé pour créer les arbres, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu ont agi ensemble pour mettre de l'ordre sur la terre. Et c'est la même chose dans notre vie. Si on veut mettre de l'ordre dans notre vie, il faut, bien entendu, avoir la présence de l'Esprit Saint. Si vous avez donné votre cœur à Jésus, l'Esprit Saint est en vous, il est avec vous, il ne vous abandonnera jamais. Mais c'est possible d'avoir l'Esprit Saint en vous et quand même avoir une vie qui est en désordre. Et c'est ça qu'on veut régler, n'est-ce pas? On veut mettre les choses en ordre. Regardez votre voisin dit, il faut que vous mettez les choses en ordre. Et ça, c'est un bon exemple à qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, on vient de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, quand vous pointez le doigt à quelqu'un d'autre, il y en a trois qui pointent vers vous, n'est-ce pas? Hein, non, regarde la même personne et dit, non, dans le fond, il faut que je mette les choses en ordre. Ça, c'est plus correct, n'est-ce pas? Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a vu? Juste pour une petite révision, parce qu'on a quand même commencé il y a déjà quelques semaines. On a parlé de l'importance de mettre les choses en ordre, d'avoir des bonnes priorités. Et en parlant des priorités, dans le naturel, il y a trois choses qui sont prioritaires. Et sans ces trois choses, on ne peut même pas survivre. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est quoi la première chose qu'il faut faire pour survivre? Il faut respirer. C'est quoi la deuxième chose qu'il faut faire? Il faut boire. Hein? C'est quoi la troisième chose? Il faut manger. Donc, il faut respirer, il faut boire, il faut manger. Donc, on sait qu'on peut passer jusqu'à 3 minutes sans respirer. Après 3 minutes, le cerveau commence à mourir. Et on peut passer des fois jusqu'à 3 jours sans boire de l'eau, mais après ça, la plupart des fois, c'est sérieux, même fatal. Et on peut aller jusqu'à 3 semaines, des fois, sans manger. Mais après ça, on crève. Mais en général, encore, il y a des personnes qui ont fait des jeûnes de 40 jours dans la Bible, etc., mais ça, c'est pas suggéré. Amen. Mais qu'est-ce que je peux voir là-dedans? C'est que, et on a parlé de cela, respirer, boire, manger dans le naturel, on peut pas survivre sans ces trois choses, mais dans la vie spirituelle, c'est la même affaire. Il faut qu'on apprenne à respirer spirituellement. On a parlé de ça, que respirer spirituellement, comment on pratique la présence de Dieu. C'est pas juste avoir un temps de dévotion le matin où, bon, je vais donner 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure à Dieu et je vais oublier Dieu pour le restant de la journée. Non, je vis avec Dieu. Que je mange, que je bois, que je fasse quoi que ce soit, je fais tout pour la gloire de Dieu. Je suis conscient de la présence de Dieu. Quand je suis au travail, quand je suis dans l'auto, quand je magasine, quand je joue au golf, quand je suis dans un canot quelque part, n'importe où, n'importe quand, on pratique la présence de Dieu. On respire. On peut pas aller plus que 3 minutes sans respirer dans le naturel. On devrait pas aller plus que 3 minutes sans être conscient de la présence de Dieu. Ça, c'est la vraie vie chrétienne, n'est-ce pas? Je parle pas de la religion, je parle de vivre avec Dieu, marcher avec Dieu. Dieu est là. On respire. Amen? Puis on a parlé de l'importance de boire et l'importance de boire la parole de Dieu. Et on a vu l'importance de méditer la parole de Dieu sur un plan régulier, constamment. On est en contact avec la parole de Dieu. Et ce matin, on va aller voir le troisième point, l'importance de manger. Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim? Pense pas trop à ça, hein? Pasteur Joël a dit que je suis venu pour manger au restaurant avec le pasteur, c'est très spirituel. Je dis, bon, ouais, c'est prophétique, hein? On parle de ça aujourd'hui. Justement, c'est mon message. On va parler de l'importance de manger. Mais pas manger juste dans le naturel, mais manger spirituellement parlant. Et on va voir ici, dans ce verset de la parole de Dieu, en Jean chapitre 4, on va voir la nourriture que Jésus aimait manger. Et on va se poser la question aujourd'hui, quelle est votre nourriture? Qu'est-ce que vous aimez manger? La poutine? La pizza? Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que vous aimez mieux les tartes ou les gâteaux? Hein? On va faire un petit sondage. Qui aime les tartes plus que les gâteaux? Il y a une raison pour ça. Ma femme et moi, on a une petite discussion là. Donc, j'ai besoin. Qui dirait que les tartes sont mieux que les gâteaux? Qui aime mieux les gâteaux que les tartes? C'est toujours pas réglé, hein? Moi, j'étais convaincu que tout le monde aimait les tartes plus que les gâteaux, mais... Ouais. Mais quand on demande quelle est votre nourriture, on parle pas des gâteaux, on parle pas de poutine, on parle pas de pizza. Jésus nous donne, ici dans ce passage des Écritures, la bonne réponse. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Et les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Et Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Mais je veux vraiment consommer dans la peau de Jésus, juste pour quelques minutes. Pensez à ceci. N'oubliez pas que Jésus, il s'est fait chair. Il sait qu'est-ce que c'est d'être un homme. Donc, il vient de faire un long voyage. Il est fatigué de son voyage et il a faim. Il a un petit creux, peut-être même plus qu'un petit creux. Il a peut-être vraiment faim. Mais ils se sont arrêtés au puits de Jacob et les disciples sont allés en ville pour acheter des vivres. Ils sont allés chez Tim Hortons ou je ne sais pas où pour acheter des Timbits ou je ne sais pas, mais il est là au puits de Jacob. Il a faim et tout d'un coup, il y a une femme qui vient, une femme samaritaine, et il se met à parler avec elle. Vous connaissez l'histoire, et il a une parole de connaissance, et cette femme a été convaincue que c'était le Messie. Jésus était vraiment le Messie. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est que les disciples, quand ils arrivent avec la nourriture, et encore, on lit cela de même, mais Jésus a vraiment faim. Combien de vous savez c'est quoi d'avoir vraiment faim? Quand on a faim, des fois, c'est difficile de penser à autre chose que la nourriture. C'est comme si je ne fais pas attention, je prêche trop long, vous ne m'écoutez plus. Hein? Vous pensez, effectivement, à Tim Hortons ou quelque autre place. Vous n'êtes plus là, vous êtes déjà rendu au restaurant. Mais qu'est-ce qu'on voit? La nourriture a une puissance. Amen? Et Jésus, il avait faim, la Bible dit, il était fatigué de son voyage, il avait faim. Mais quand ils sont arrivés avec la nourriture, et peut-être même, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont apporté, si c'était du pain ou des poissons, mais peut-être même ils étaient capables de sentir, « Ah, ça sent bon! » Mais ils se laissaient pas distraire par ça. Il a saisi l'occasion pour enseigner ses disciples une leçon importante. Il a dit, « Moi, j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. » Hein? Quelqu'un a apporté quelque chose? Quelqu'un lui a donné déjà un sandwich, je crois. Mais il a dit, ma nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si on pense à ça, et si on pense au pouvoir de la nourriture, il y a plusieurs points que je voulais faire, juste en méditant un peu la puissance de la nourriture. Qu'est-ce que la nourriture fait pour nous? Premièrement, la nourriture nous donne la force, n'est-ce pas? Donc, Jésus est en train de dire quoi? Il est en train de dire, la chose qui me donne la force dans la vie, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que vous vous sentez faible des fois dans votre vie chrétienne? Ça vous est arrivé déjà d'avoir des moments où c'est comme vous n'êtes pas vraiment dans votre peau, c'est bien dans votre peau, c'est pas, vous n'avez plus le goût de continuer. Lundi matin, le cadran sonne, la dernière chose que vous voulez faire, c'est vous lever et aller au travail. Il n'y a personne ici qui comprend ça, hein? Mais quand ça arrive, rappelez-vous une chose, vous avez besoin de nourriture. Vous avez besoin de reprendre la force, mais pas juste, je parle pas d'un petit déjeuner ici, je parle de découvrir la même nourriture que Jésus mangeait régulièrement. La nourriture nous donne la force. Une autre chose que la nourriture fait, la nourriture nous donne du plaisir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment manger? Qui n'aime pas manger? Presque tout le monde aime manger. Surtout les choses, hein, les desserts, ça c'est le meilleur, n'est-ce pas? J'aime ça, j'aime les desserts, j'aime les fruits, j'aime les légumes, j'aime les viandes. Moi, j'aime manger. J'aime déguster un bon repas. Et vous? Un bon steak, c'est pas souvent qu'on a ça, mais un bon steak succulent, ça c'est bon, hein? Les langoustines ou je sais pas, qu'est-ce que vous aimez le plus? Est-ce que vous êtes encore là ou est-ce que vous êtes déjà rendu au restaurant? Mais la nourriture nous donne du plaisir. Des fois, on voit les personnes hein, aujourd'hui au Québec, hein, c'est vraiment le Tim Horton, il faut dire. Hein, combien de personnes se promènent avec leur petite tasse de Tim Horton? Hein? On va au match de baseball pour voir les enfants jouer et les parents arrivent, tout le monde a une tasse de Tim Horton. Hein? Pourquoi? Parce que on aime ça. C'est bon, c'est délicieux. Mais Jésus est en train de dire que la chose qui me donne le plaisir, plus que la nourriture, plus qu'un bon café, plus que n'importe quoi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, laisse-moi vous poser la question. Est-ce que vous serez plus enthousiasmé par une invitation d'aller manger au restaurant le plus chic et quelqu'un va payer la facture et dit, carte blanche, vous commandez tout ce que vous voulez et on vous paye la traite? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ça, hein? Mais est-ce que vous serez plus enthousiasmé par cela ou par une invitation par le Seigneur d'aller faire son œuvre et accomplir, faire sa volonté, accomplir son œuvre sur la terre? C'est quoi la chose qui serait plus motivante, qui vous donnerait plus de plaisir? Plaisir, déguster le steak ou voir une âme sauvée? On le dit comme ça, on aimerait mieux voir une âme sauvée, mais en réalité, on sait que ça a été la bonne réponse. Nous savons, nous sommes à l'église, nous sommes des chrétiens, il faut répondre, âme sauvée. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On juge un arbre par son fruit. Amen? Donc, la nourriture nous donne la force, la nourriture nous donne du plaisir, la nourriture nous satisfait aussi. Quand on a faim, on a besoin de manger. Et quand on a bien mangé, oh, quelqu'un nous offre un troisième service, on dit non, merci. Je suis déjà plein. Je suis vraiment satisfait. J'ai mangé à ma faim. Est-ce que vous savez c'est quoi manger à sa faim? Il y a beaucoup de jeunes dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas c'est quoi manger à leur faim. Parce que littéralement, ils meurent de faim. Il faut pas les oublier non plus. Mais spirituellement parlant, est-ce que vous essayez de satisfaire le petit creux que vous avez? Vous savez, c'est quoi des fois? Vous êtes à la maison, tout tombe tranquille, et c'est comme, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien à faire. Ce n'est pas souvent que je vis ça, hein, parce qu'il y a trop d'action chez moi. Mais je sais que ça arrive des fois. C'est comme, hein, les personnes, on va louer un film. Donc, on va mettre un film, ils regardent le film, et après, c'est comme, bon, hein, c'est plate, on cherche quelque chose à faire. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on essaie des fois de remplir le petit creux que nous avons. Il y a quelque chose en nous qui veut agir, qui veut faire quelque chose, qui veut être satisfait, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il y a des personnes que, bon, c'est pas assez aller manger au restaurant, c'est pas assez être avec mon épouse, c'est pas assez de louer un film, et c'est pourquoi même les personnes vont, moi j'ai tout essayé, donc peut-être il y a d'autres choses, peut-être il y a une autre femme, peut-être il y a un autre homme, peut-être il y a une autre activité dont, que je peux faire qui va remplir le vide dans mon cœur. Mais savez-vous quoi, il n'y a rien qui va remplir le vide, qui va satisfaire le petit creux. Rien que faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Donc la prochaine fois que vous avez ce sentiment, c'est comme, oh, ben, je m'ennuie, c'est plate, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas satisfait, pensez à ça. Mettez-vous dans la présence de Dieu. Demandez au Seigneur, Seigneur, c'est quoi ta volonté? C'est quoi l'œuvre que tu veux que j'accomplisse? Amen. La nourriture nous satisfait. Et puis, une autre chose, et ça va de pair avec ce que Pasteur Joël a dit, la nourriture nous unit. Avez-vous remarqué que je suis venu manger au restaurant avec votre pasteur? Pourquoi? Parce que souvent, c'est autour d'une table qu'on va avoir des moments de fraternité où on va finir par se connaître, n'est-ce pas? Hier, nous sommes allés en petite partie pour les parents et les enfants qui jouaient dans une équipe de baseball d'un de mes fils. Et puis, on était tous dans les chaises, mais au milieu du terrain, il y avait une table avec la nourriture. La nourriture était au plein centre, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a comme brisé la glace pour les gens. Bon, on peut aller prendre une crudité, tremper ça, et puis on commence à jaser. Vous savez que des fois, c'est la nourriture, on ne sait pas quoi faire. Et je ne sais pas si c'est un phénomène qui est intéressant, mais un gars qui pèse 250, qui est 6 pieds, 5 pouces, il est moins gêné avec une petite tasse de styrofoam dans sa main des fois. Hein? Souvent, on invite des personnes et puis aimerais-tu avoir un café? Oui, on prend le café puis c'est sécurisant, n'est-ce pas? Mais la nourriture peut nous unir. C'est bon d'avoir les temps de fraternité. Au ciel, on va avoir une noce incroyable. Moi, j'ai hâte du repas. Et vous, est-ce que des gens qui ont hâte de manger au ciel, ça va être quelque chose? Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que dans le naturel, la nourriture pour nous unir, les moments, moi j'aime ça dans notre famille, on essaie de faire en sorte que c'est une priorité que plusieurs fois par semaine, 5 fois au moins si c'est possible, ça devient de plus en plus difficile avec les enfants qui ont des activités, mais on s'assoit autour de la table et on mange ensemble. On partage un repas, ça nous unit. Mais spirituellement, savez-vous quoi? Si on partage la même nourriture spirituellement, dans une église, dans un couple, dans une famille, si on a la même motivation, la même nourriture spirituelle, ça va nous unir. Et c'est quoi notre nourriture? C'est la volonté de celui qui nous a envoyés et accompli son œuvre. Si on mange tous la même chose, on va être ensemble, ensemble. Mais s'il y a un qui va chez McDo, un autre qui va chez Tim Hortons, il y a un autre qui va au Vieux de Lutte, un autre qui va ailleurs, on n'est pas ensemble. Mais si on mange tous la même chose, on mange tous la volonté de Dieu et les œuvres de Dieu, là, on va avoir une église qui est unie. Pas juste notre église, c'est la même chose. Pasteur Joël est ici. Ils vont commencer une nouvelle église dans 2 semaines. Je suis content, mais dans le fond, c'est la même nourriture. Il veut faire la volonté de Dieu et accomplir son œuvre. Et ça va nous unir. Et on va pouvoir collaborer, travailler ensemble, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut. Donc, la nourriture est puissante. On continue. Donc, notre nourriture doit être de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Donc, c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Jésus a répondu à ces questions dans le 6e chapitre de Jean. On va continuer. « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? C'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Jésus dit, ma nourriture, la chose qui me donne la force, la chose qui me donne du plaisir, la chose qui peut me satisfaire, la chose qui va unir mon Église, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde reçoive la vie éternelle. Allô? Est-ce que vous êtes là? Là, il n'y a rien qui devrait nous motiver plus dans la vie que de voir les âmes sauvées. C'était sa nourriture. C'était sa motivation dans la vie. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Il répond à cette question en Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, c'est quoi la vie, la volonté de Dieu? Que tout le monde reçoive la vie éternelle. C'est quoi l'œuvre de Dieu? On vient de le lire. Hein? Que tout le monde croit. On l'a vu ici. C'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, Jésus dit, ma nourriture, mon plaisir, la chose qui va me satisfaire, c'est de faire la volonté de Dieu, d'être sûr et certain que je ne perde personne, mais que tous reçoivent la vie éternelle. L'œuvre de Dieu, c'est que tous croient en Jésus-Christ. Et ça doit être la chose le plus important dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez jamais satisfait. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez jamais de vrai plaisir. Si ce n'est pas le cas, vous manquerez toujours la force dont vous avez besoin. Si ce n'est pas le cas, vous serez toujours en désaccord avec le corps de Christ. Amen? On a besoin de respirer. On a besoin de boire. Mais j'ai besoin de vivre à tous les jours de ma vie, 24 heures sur 24 heures. Ma nourriture, Seigneur, c'est de faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous acheter des robes et des sandales et se promener comme des bizarroïdes pour faire la volonté de Dieu? Non. Moi, je sais que qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut infiltrer chaque domaine de notre vie. Il veut infiltrer votre vie familiale, votre vie professionnelle. Il veut infiltrer même vos loisirs. Dieu veut être tout et en tout dans notre vie. Il veut qu'on respire, qu'on boit, mais qu'on mange. Vous connaissez des gens qui sont les mordus de hockey, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ça? Oh, il y a des personnes, on parle de hockey, « Oh, j'en mange! » Mais quand on parle des âmes perdues, on devrait dire, « Ah, oh, j'en mange, je veux partager la bonne nouvelle avec les gens. » Mais pas d'une façon bizarre ou vide. Parce que comme je dis, si on veut rejoindre le monde, il ne faut pas les faire peur non plus. Il faut qu'ils sachent que, bon, la vie éternelle, être chrétien, il faut qu'ils sachent c'est quoi. Parce que beaucoup de gens, ils n'ont aucune idée c'est quoi d'être chrétien. Ils pensent qu'être chrétien, effectivement, c'est d'adopter certaines rites et certaines traditions, aller à l'église et arrêter de faire tout ce qui est le fun. Pour beaucoup de gens, c'est ça l'image qu'ils ont. Je crois qu'on a besoin, de leur montrer qu'on aime Dieu, on respire, on boit et on mange. Amen. Je suis chrétien. Je ne fais pas la vie chrétienne, je suis chrétien. Je suis enfant de Dieu. Je suis en communion avec mon Créateur. Et je l'aime. Et sa volonté et son œuvre, j'en mange. Et vous? C'est pourquoi nous sommes ici. Alléluia. Donc, on va terminer juste avec le OMC. OMC, ça veut dire quoi? Oui, mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Comment accomplir l'œuvre de Dieu dans votre vie? Là, je vais juste vous donner quelques grandes lignes. Encore, je vous donne le menu aujourd'hui. C'est à vous d'aller. C'est le livre de recettes plutôt. Allez préparer la recette et puis déguster plus tard à la maison et au travail, au magasin. Et c'est ça, sur le terrain de golf et n'importe où que vous trouvez. Et vous vous trouvez. Hein? J'ai donné à papa parler aujourd'hui. Papa grave. car nous sommes son ouvrage. N'est-ce pas bon de savoir que nous sommes l'ouvrage de Dieu? Et nous sommes le chef d'œuvre de Dieu. Et on a été créés en Jésus-Christ pour de quoi? De bonnes œuvres. Soulignez ces deux mots, bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On parle toujours de mettre sa vie en ordre. Si vous voulez vraiment que votre vie soit transformée du chaos en jardin d'Éden, il faut que vous respirez, il faut buvez et il faut manger la volonté de Dieu. Manger l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qui va mettre votre vie en ordre. Quand vous mangez la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, votre mariage va marcher. Quand vous mangez la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu, vos finances vont prospérer. Amen. Laissez-vous, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Numéro un, laissez-vous diriger par l'amour. C'est simple. Pourquoi est-ce que tu dis ça, pasteur? Parce que c'est biblique, c'est la bonne réponse. Si vous voulez vraiment, combien de vous voulez vraiment accomplir l'œuvre de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous êtes conscient? Parce qu'il y a des gens plus en arrière que je n'ai pas vu depuis longtemps. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu, le Créateur de l'univers, quand il vous a créé, qu'il avait déjà un plan pour votre vie?
Amen.
Un dessin. En fait, il a écrit un livre, un roman d'amour, si vous voulez, et vous êtes une des vedettes dans le livre.
Amen.
Vous avez des œuvres qui sont préparées avant la fondation du monde, que Dieu a ordonné, les projets qu'il a formés sur vous, mais c'est à nous de les pratiquer. Moi, j'aime ça de penser que j'ai quelque chose à faire, n'est-ce pas bon, Yves? C'est bon, n'est-ce pas? Yves est l'ouvrage de Dieu. Il est créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il y a des choses spécifiques. Et encore, le problème, c'est que on lit un verset de même et on pense tout de suite, « Oh, mais peut-être je suis supposé d'être un pasteur, ou peut-être je suis supposé d'être un missionnaire, ou peut-être un évangéliste. » Peut-être c'est le cas, et si c'est le cas, tant mieux. On pense toujours aux grands personnages de la Bible, Moïse, le grand leader, je suis content que Moïse a accompli le plan de Dieu, qu'il a fait les œuvres que Dieu a planifiées pour lui. Est-ce que vous êtes content? Mais comme je dis souvent, je suis aussi content pour les parents de Moïse. Et qu'est-ce que les parents de Moïse ont fait? Ils ont fait un bon panier. Le panier n'a pas coulé. Le bébé a survécu. Ils ont fait le plan de Dieu pour leur vie. Et savez-vous, des fois, il faut démystifier un peu les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Il y a des œuvres surnaturelles, spectaculaires. Il y a des œuvres terre à terre qui vont ouvrir la porte pour le surnaturel. Pour vous, peut-être même pour les autres. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont semé dans le ministère de Pasteur Joël. Vous avez travaillé fort à l'usine cette semaine. Vous avez transpiré. Vous avez eu des fois mal et c'était tout raté, comme on dit. Et par amour, aujourd'hui, tu as entendu la vision qu'il a pour commencer une nouvelle église à Bromont et tu as tu as transformé ton travail naturel et en donnant une semence dans son ministère, tu l'as transformé dans une œuvre surnaturelle. Amen. Et juste votre comportement au travail, votre façon d'être, le fait que vous pouvez dégager de l'amour et la joie quand tout le monde est déprimé et tout le monde se plaint. Si un vrai chrétien arrive au travail et qu'il rayonne de la joie de l'Éternel, ça va faire une différence. Amen. Nous sommes son ouvrage. Et on a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Mais laissez-vous diriger par l'amour. Jésus, Matthieu 14:14, il nous donne l'exemple de cela. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut quoi? Ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Donc, on voit l'œuvre de Dieu est en train de s'accomplir. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Mais l'œuvre et la volonté de Dieu suivent toujours l'amour. C'est la compassion et l'amour qui nous poussent vers le plan de Dieu pour notre vie. Amen? Ça, c'était un peu faible. Amen? 2 Corinthiens 5, 14. J'aime beaucoup ce verset dans la parole vivante. Écoutons ceci. Et Seigneur, je demande que tu nous aides à vraiment saisir par l'Esprit Saint la réalité de ce verset. Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, il nous presse et nous pousse en avant. C'est quoi qui nous étreint? C'est quoi qui nous presse? C'est quoi qui nous pousse en avant? L'amour de Dieu. Tu m'en dis l'amour. Amen. L'amour de Dieu. L'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, ce n'est pas juste un feeling. L'amour est une décision. Et quand on voit des personnes qui sont dans le besoin, et on voit des personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur, ça nous pousse à faire quelque chose. Jésus a vu les malades. Il a vu des personnes qui avaient mal dans leur corps, qui souffraient et qui avaient toutes sortes de maladies, d'infirmités. Il était ému de compassion et cette compassion a relâché la puissance de Dieu envers eux. Et c'est la même chose pour nous. Si on se laisse guider par l'amour, si on se laisse émouvoir par la compassion de Dieu, ça va nous propulser vers le plan de Dieu pour notre vie. Voulez-vous trouver le plan de Dieu? Vous dites, mais moi, je ne sais pas quoi faire. La Bible dit que je suis son ouvrage. La Bible dit que Dieu a planifié des bonnes œuvres pour moi. Mais j'ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une bonne réponse. Aimez Dieu et aimez votre prochain. Et si vous êtes en amour avec Dieu, et quand à chaque fois que vous voyez des personnes, vous vous laissez guider par l'amour de Dieu, vous allez vous trouver au plein centre du plan de Dieu pour votre vie. L'amour de Dieu nous presse, nous étreint. Alléluia, ça va nous propulser vers le plan de Dieu. Alléluia. Donc, on continue, verset 15. Parce que savez-vous une chose, l'amour de Dieu est toujours désintéressé, tandis que ceux qui ne sont pas animés par l'amour sont toujours égoïstes, n'est-ce pas? Verset 15, et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été rejetés à une vie nouvelle ne continuent pas à mener selon leur gré une petite vie égoïste. Je vais souvent prêcher là-dessus, hein? Une petite vie égoïste. Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. On a le choix. On peut avoir une petite vie ou on peut avoir une grande vie. La petite vie, c'est la vie égoïste où c'est à moi, c'est mes affaires, c'est mes choses. Dérange pas moi, Seigneur. Demande-moi pas de sortir de mon zone de confort parce que je suis bien là. Mais cette petite vie égoïste, c'est plate. Tu vas continuer à vivre comme ça et hein, louer les films et faire ceci, avoir les aventures, ou vous droguer ou quoi que ce soit, vous allez essayer de vous satisfaire sans jamais réussir. Amen? Dans cette petite vie égoïste. Mais si vous vous laissez guider par l'amour, vous voyez, Seigneur, je veux m'oublier moi-même, il y a un monde à gagner. Il y a des âmes perdues. Il y a des personnes qui souffrent autour de nous. Seigneur, et là, votre vie va devenir grande. Parce que vous savez que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et cherchent les personnes dont le cœur est entièrement à lui. Pourquoi? Pour manifester sa puissance et son pouvoir. Dieu veut bénir le monde. Donc, il cherche les canons. Il cherche les boyaux d'arrosage. Dieu veut arroser la terre. Et il cherche les boyaux. Hein, vous savez, c'est quoi? Vous savez, hein, vous avez des plantes chez vous. Moi, j'ai des plantes qu'on vient de planter il n'y a pas longtemps et il faut les arroser. Mais je ne peux pas les arroser sans le boyau. Il faut aller à la source. OK? Il faut attacher le boyau, ouvrir l'eau et puis les fleurs peuvent vivre. Et savez-vous, c'est la même chose. Dieu est la source de vie, mais un monde entier qui est séché et il meurt dans le péché. Et Dieu a besoin de les arroser. Il cherche les boyaux. Des gens qui ont besoin d'être guéris. Dieu a besoin des mains pour qu'ils soient guéris. Des gens qui ont besoin d'être bénis financièrement. Dieu cherche les boyaux. Amen. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous vous servez de boyaux, vous allez finir par être trempé vous-même. Avez-vous remarqué ça? Hein? Vous arrosez les fleurs et vous, même après que l'eau est fermée, il reste encore de l'eau là-dedans, dans le boyau. Je sais, parce que des fois c'est agaçant. Hein? Je veux remettre la hose et puis il y a de l'eau qui sort encore. Hein? Mais c'est ça que Dieu veut. Dieu veut se servir de nous. On va arroser le monde qui nous entoure. Et même quand le ministère est terminé, il en reste encore. Et nous sommes encore bénis. Ça, c'est la grande vie. Allô? Est-ce que ça vous intéresse? Oh ben. J'espère que ça vous intéresse. Sinon, restez sec. Mais moi, je vais dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, utilise-moi, Seigneur. Ma nourriture, c'est de faire de la volonté et accomplir ton œuvre. Deuxième chose, soyez remplis de l'Esprit. Remplis de l'Esprit. Vous savez-vous que même Jésus-Christ, il est Dieu dans la chair. Il n'était pas capable de faire des miracles ou des choses surnaturelles avant d'être baptisé par son cousin Jean et avant que le Saint-Esprit ait descendu du ciel. Et on voit en Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Si Jésus avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit et revêtu de la puissance d'en haut, je pense que moi aussi j'en ai besoin. Et vous? Luc 4, 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Mais voici la bonne nouvelle. Luc 24, 48 dit ceci. Vous êtes témoins de ces choses. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Avez-vous remarqué? Jésus était revêtu de la puissance d'en haut. Et ici, Jésus dit qu'on peut être revêtu de la même puissance. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 14, les œuvres, ceux qui croient en moi, les œuvres que je fais, ma volonté, ma nourriture, c'est de faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Les œuvres que je fais, ils feront aussi et encore des plus grands parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire que je peux faire les mêmes œuvres que Jésus a faites. Vous savez que vous, Église, vous pouvez imposer les mains aux malades, les malades peuvent être guéris. Oh oui, je sais que les pasteurs peuvent faire cela, mais c'est pas ça que la Bible dit. Oh, les évangélistes. Oui, mais vous savez, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Alléluia. Mais si votre nourriture, c'est de faire sa volonté, accomplir son œuvre, si vous vous laissez guider par l'amour et la compassion est là pour vous émouvoir, là, vous demandez, Seigneur, remplis-moi. Je veux être revêtu de la puissance d'en haut. Vous pouvez être sûr et certain que le même esprit qui était sur Jésus va venir sur vous. Et vous allez pouvoir faire les mêmes genres de choses que Jésus a faites. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Moi, ça, c'est pas une petite vie égoïste. Ça, c'est la grande vie. Amen. Donc, on va juste terminer avec la troisième chose. Encore, je vous donne la recette. Hein? On n'a pas vraiment mangé. Je vous donne la recette, je vous montre le menu. Ça va être à vous maintenant de prendre ces pensées, de prendre ces versets de la parole de Dieu, d'aller les méditer, les étudier, et puis demander au Seigneur de vous montrer comment les mettre en pratique dans votre vie. Mais une troisième chose, si on veut manger la nourriture de Dieu, c'est de faire sa volonté, accomplir son œuvre. On se laisse diriger par l'amour, on est rempli de l'Esprit. Mais puis troisième chose, saisissez le moment. Ne retardez pas le plan de Dieu. La procrastination. Moi, j'ai voulu faire un message même sur la procrastination. Il y a à peu près 8 ans, j'ai eu l'idée de faire un message sur comment vaincre la procrastination. Mais je ne l'ai pas fait encore. Ça, c'était votre occasion de rire, OK? Mais c'était trop plate, je comprends. Est-ce que vous savez que le mot naïf n'est pas dans le dictionnaire? Non. Oh, oui? OK, bon, on est en train de regresser là, donc on revient. Saisissez le moment. Saisissez le moment. Jean 9, 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Moi, je veux respirer, boire et manger. Moi, je veux, comme Jésus, avoir la bonne nourriture, faire sa volonté, accomplir son œuvre. Mais c'est pas demain, c'est pas dans 4 mois, c'est pas l'année prochaine, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et la parole de Dieu dit clairement qu'on a besoin de saisir le moment, de racheter le temps. Priez avec fidélité, verset 2, on va terminer avec ce verset ici. Priez avec fidélité, demeurez vigilant par la prière adressée à Dieu avec reconnaissance. En même temps, priez aussi pour nous afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret de Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que je puisse parler de ce secret et le faire clairement connaître comme je le dois. Conduisez-vous avec sagesse envers les non-chrétiens, en profitant de toute occasion, demandez toute occasion, qu'ils se présentent à vous, que vos paroles soient toujours agréables et pleines d'intérêt. Sachez répondre à chacun de la bonne manière. Dans la version seconde, ça dit de racheter le temps. Et voilà, on voit quelque chose dans ce verset. Parce qu'on parle de comment manger la bonne nourriture. Qu'il faut se laisser guider par l'amour. Il faut être rempli de l'esprit, mais il faut saisir le moment aussi. Est-ce que vous pouvez imaginer lundi matin, demain c'est quoi, le 8 septembre, chacun de vous, sans exception, vous vous réveillez. Et la première chose, vous remarquez, c'est que vous êtes conscient de la présence de Dieu. Dieu est là. Seigneur, je t'aime. Hein? Pas besoin de forcément courber la tête et flécher les genoux. C'est une bonne chose des fois, mais vous pouvez juste là, dans votre lit, vous respirez. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Amen. Seigneur, merci, tu es là. Seigneur, merci. On va avoir une bonne journée aujourd'hui. Amen. On peut parler à Dieu. Et puis, première chose que vous faites, vous prenez votre Bible, vous commencez à boire un peu, désaltérer votre âme qui a soif de la parole de Dieu. Vous lisez la parole, mais vous mettez la parole dans votre cœur pour que quand le livre est fermé, que la parole continue à vous parler. Et pendant toute la journée, le matin, à midi, l'après-midi, les versets de la parole de Dieu viennent dans votre cœur et vous êtes capable de les méditer. Dans l'auto, vous êtes en train de conduire et ce que vous avez lu le matin, vous dites, merci Seigneur, que ta parole est vraie. Merci Seigneur pour ces promesses que tu m'as montrées ce matin. Vous commencez et vous méditez la parole. La journée longue, vous êtes en train de boire la parole de Dieu. Mais imaginez aussi si chacun de vous, sans exception, demain matin, vous dites, Seigneur, aujourd'hui, le 8 septembre, pas la semaine prochaine, pas un jour, je vais aller faire quelque chose de grand pour Dieu. Le succès, c'est pas une destination, c'est un voyage de tous les jours. Et c'est, le voyage est fait un pas à la fois. Il faut réussir chaque pas pour réussir votre vie. Amen. Et si on trébuche, si on se trompe, si on s'égare du chemin, on se répand. On dit, Seigneur, je m'excuse, je vais me remettre sur le bon chemin. Mais je respire et je bois. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'ai faim. J'ai faim de voir ta volonté accomplie et de voir ton œuvre, Seigneur. De faire ta volonté, de voir ton œuvre accomplie. Donc aujourd'hui, Seigneur, comme la Bible dit en Colossiens 4, 2, je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu me donnes une occasion favorable pour que je puisse annoncer ta parole. Donc, regardez-moi. Imaginez, je ne parle pas à quelqu'un d'autre, je parle à toi, et 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 à toi, à toi, et à toi, à toi, 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 toi. Chacun de nous, on respire la présence de Dieu. On boit la parole de Dieu. Et on mange la volonté. Mais on demande spécifiquement, on dit, Seigneur, aujourd'hui, le 8 septembre, aujourd'hui, je prie, Seigneur, que tu me donnes une porte ouverte. Ouvrir une porte pour moi aujourd'hui. Une occasion favorable. Et Seigneur, quand la porte s'ouvre devant moi, donne-moi la sagesse de saisir le moment. Donne-moi la parole pour que je puisse parler comme il faut parler, comme je dois parler, avec hardiesse, avec amour. Que mes paroles soient toujours assaisonnées du sel. Assaisonnées du sel. Vous mettez trop du sel et ça donne soif, n'est-ce pas? On mange quelque chose qui est salé. Ouh, j'ai besoin de boire. On veut que, Seigneur, aujourd'hui, le 8 septembre, je veux que les gens aient soif de toi parce qu'ils ont goûté à ta présence à travers mon témoignage, à travers mes paroles, les choses qui sont sorties de ma bouche. Seigneur, aujourd'hui, le 8 septembre. Amen. Donne-moi une occasion favorable aujourd'hui. Imaginez qu'est-ce qui peut arriver. Moi, je crois que dimanche prochain, on devrait avoir deux fois plus de personnes à l'église. Amen. Ou au moins, les âmes qui ont été touchées, dont le Saint-Esprit travaille. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que souvent, la Bible dit clairement, il y a une qui plante et l'autre qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Des fois, on plante les semences et on ne voit pas de fruits tout de suite. Mais on arrose, et on arrose, et on arrose, et on arrose, et puis la récolte. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent respirer, boire et manger cette semaine dans l'esprit? On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je ne veux pas que ce message soit juste un autre message. Mais je veux qu'on sonde notre cœur. Le message est terminé, mais la réunion n'est pas terminée. Et je crois que l'œuvre de Dieu ce matin n'est pas terminée non plus. Vous savez qu'il n'y a rien de plus important que de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Sa volonté, c'est que tout le monde reçoive la vie éternelle. Son œuvre, c'est que tout le monde croit en lui. Je veux en manger. Seigneur, ma nourriture, c'est de faire ta volonté et accomplir ton œuvre. Donc, on va prier. Je vais inviter tous les chrétiens ce matin de prier, s'engager, de sonder son cœur, de demander, Seigneur, je veux être honnête avec moi-même. Je veux être honnête, Seigneur, concernant la vraie motivation de ma vie. C'est quoi qui est vraiment ma passion? C'est quoi qui est vraiment ma nourriture ce matin? Est-ce que c'est vraiment peut-être de faire ta volonté et accomplir ton œuvre? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui me donnent plus de force, plus de plaisir? Etc. dans ma vie. Est-ce que j'essaie de remplir le vide de ma vie avec d'autres choses sauf ta volonté et ton œuvre? Mais avant de faire ça, à chaque dimanche matin, sans exception, je donne une occasion à ceux et celles qui sont ici de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Vous dites, mais pasteur, j'écoute ce message et des choses que je comprends, d'autres choses que peut-être je n'ai pas tout à fait saisies. Mais voici la question qui est importante à saisir aujourd'hui. La question, c'est est-ce que vous avez vous-même reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Est-ce que vous avez donné votre cœur à lui? Aujourd'hui, si vous partez de l'église, vous quittez cette bâtisse et vous tombez mort, votre cœur arrête de battre. Vous êtes mort. Est-ce que vous savez sans aucun doute que vous allez passer l'éternité au ciel? Vous dites, mais je suis une bonne personne, mais... Vous savez, la Bible dit que ce n'est pas les bonnes personnes qui vont aller au ciel. La Bible dit clairement que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La seule façon de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus, c'est de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Donc, je vais juste vous donner l'occasion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie au Seigneur Jésus? Je vais tout simplement compter à trois. Et quand je tape ma main, si vous êtes là, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, juste levez votre main, on va prier pour vous aujourd'hui. Sachez que Jésus a dit ceci, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Je ne vous invite pas à faire partie de cette église forcément, je vous invite tout simplement de donner votre cœur à Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le faire aujourd'hui. Qui veut donner sa vie à Jésus? 1, 2, 3, levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'aimerais que Deb vienne venir. Elle n'a pas honte de dire devant le monde. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour elle ce matin? C'est bon. Son nom, c'est Jenny. Donc, elle veut donner sa vie au Seigneur Jésus ce matin. Et comme je viens de dire, Matthieu chapitre 10, 32 et 33, Jésus dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Mais aujourd'hui, je suis content de dire, le Seigneur n'a pas honte de toi, tu n'as pas honte de lui. Et on va faire une prière. J'aimerais qu'on prie tous ensemble avec elle aujourd'hui. Et si tu peux juste faire cette prière de vraiment de ton cœur, en sachant que le Seigneur va entrer dans ton cœur aujourd'hui et faire de toi une nouvelle création. Tous les péchés vont être lavés. Tu vas pouvoir commencer une nouvelle vie, un nouveau départ avec lui. Donc, on va tous prier ensemble avec elle. On va fermer les yeux, on va faire cette prière. Père Céleste, si tu veux juste le répéter. Père Céleste, au nom de Jésus, je te confesse. Je viens à toi sachant que j'ai besoin d'un sauveur. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Merci Seigneur, que mes péchés sont pardonnés, que je suis une nouvelle création. Je suis ton enfant. Et aujourd'hui, j'ai la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça, c'est bon. Je suis content. Félicitations. Et on me remercie le Seigneur encore. J'aimerais te présenter Caroline. On a un cadeau qu'on aimerait te donner, une nouvelle Bible. C'est flambant neuf et c'est un cadeau qu'on veut t'offrir. Si tu veux juste aller avec elle, juste deux minutes. Et si tu as d'autres questions, elle est là pour prier avec toi. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Donc, ça fait c'est chaud au cœur de voir les personnes venir au Seigneur. Amen. Donc, on va prier ceci. Merci, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te demande, Seigneur, de m'aider cette semaine à respirer, à boire et manger. Ma nourriture est de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. Cette semaine, donne-moi les occasions favorables pour partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais juste mentionner une chose qui est venue dans mon esprit. Mercredi soir, on a prié pour les âmes. Et puis, je parlais avec Michael Ouellet le lendemain. Et tu as amené deux personnes au Seigneur, je pense, il travaille à l'hôpital. Et il a amené deux personnes au Seigneur le lendemain. On a prié que pour la récolte, que le Seigneur ouvre les yeux des gens, que le voile soit enlevé. Et deux âmes sont venues au Seigneur tout de suite après. Amen. Et je ne sais pas, il y a peut-être plein d'autres témoignages comme ça, mais je voulais juste vous encourager que nos prières sont efficaces. Que les âmes viennent au Seigneur et que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Merci encore, Pasteur Joël et Mathilde, d'être venus. On est vraiment honorés de vous avoir avec nous. Et que le Seigneur vous bénisse. On va chanter un dernier chant. Je vais aller à la porte pour vous donner la main. Et soyez là mercredi soir à 19h.